Bulles et reportages, principe actif.
Bulles et reportages.
Mai 1968. Le mois de mai 1968 a été un mois incroyable. Il y avait une effervescence politique jamais vue. Filles et garçons parlaient politique, certains étaient pour le changement et d'autres en avaient peur. Il y avait une sorte d'euphorie, on avait l'impression que tout allait pouvoir être chamboulé. C'était surtout les plus jeunes au début, avec les étudiants, puis le mouvement s'est répandu progressivement et des personnes de tous les âges se sont rencontrées. C'était surtout à Paris et dans les grandes villes que cela a débuté. Puis les petites villes ont suivi avec les organisations syndicales. On se souvient des affrontements dans Paris en écoutant les événements grâce à la radio qui retransmettait en direct ce qui se passait. On entendait que ça chauffait là-bas. C'est là qu'on a entendu pour la première fois Cohn-Bendit parler. On se doutait qu'il deviendrait un homme politique. Il était très investi dans ce mouvement. Mais c'est plus la génération de nos enfants qui était concernée. Ils avaient alors 20 ans. Une des cours des Beaux-Arts avait été transformée en infirmerie grâce à la proximité de la fac de médecine deux rues plus loin. Les étudiants de médecine étaient venus soigner les manifestants blessés par les CRS. Leur charge était vraiment impressionnante. Ils avançaient tous de face. Les jeunes de l'autre côté couraient dans tous les sens. Les étudiants des Beaux-Arts avaient constitué dans leurs locaux des ateliers de fabrication d'affiches. Certains proposaient des slogans et l'ensemble votait pour obtenir le meilleur. Les relations entre les gens ont changé. Avec les professeurs, par exemple, les fameux patrons qui avaient un certain prestige et qu'on craignait, les relations se sont modifiées et on osait leur parler. Les profs sont devenus différents. Ils ont joué le jeu et évolué. Ceux qui voulaient garder les anciennes coutumes n'arrivaient plus à faire cours. Dans les usines, c'était la même chose. On discutait plus facilement avec les supérieurs. Les rapports avec les chefs d'atelier sont devenus plus accessibles. C'est venu un peu après, ils ont pris le train en route. À partir de ce moment-là, les mœurs ont évolué. La rencontre entre les hommes et les femmes est devenue plus facile. On venait bousculer toutes les anciennes coutumes. Mai 68 a été un point de départ pour un changement progressif des mœurs.
Nous sommes maintenant à la maison, on dit maison de retraite d'ailleurs, je ne sais pas, mais EHPAD, et on reviendra sur cet établissement public. J'ai oublié l'acronyme d'EHPAD, mais en tout cas, on est à Azemia, à Évreux, les gens connaissent mieux sous cette appellation-là. Nous sommes avec deux résidentes, Madame Pringuet et Madame Renoux, et on est accompagné par le psychologue Frédéric Garcia Suarez et une responsable de l'animation, Katia Dessol, si je prononce bien. Voilà pour vous parler ce matin du projet de disque 1090. On va revenir sur ce projet qui est issu d'un travail d'un groupe de conversation qui est mené depuis un moment ici à Azemia et qui a abordé des grands moments de l'histoire de France, en tout cas au XXe siècle, et puis aussi des moments d'histoire plus personnels des différents résidents et résidentes qui ont participé à ce projet. Je ne sais pas si j'ai dit trop de bêtises, mais je veux bien qu'on revienne un petit peu sur, si vous pouvez nous parler un peu de ce projet dans les grandes lignes, et puis les sujets qui ont été abordés. Donc je ne sais pas qui veut commencer à prendre la parole autour de ce groupe de conversation et de ce projet 1090.
Je vais commencer. Donc le groupe de conversation, on se réunit tous les vendredis matin. On se retrouve à peu près à 10-12 résidents. Et donc effectivement, avec ce groupe, on fait des conversations, comme son nom l'indique. On s'appuie uniquement sur les échanges. Et j'anime avec les personnes ce que j'appelle des fils rouges. C'est-à-dire, on essaie de construire des objets qui vont être un support de transmission vers notamment les plus jeunes. Voilà. Avec les résidents, je leur ai demandé quels étaient les événements marquants qui, selon eux, avaient modifié la société. Voilà. Donc, on a fait un brainstorming, ça nous a pris plusieurs semaines. Et au final, on a retenu 18 thèmes. Voilà. Et sur les 18, il ne nous en fallait que 10. Voilà. Donc on a éliminé comme ça, on a marché sur la Lune, ça par exemple, à un moment donné c'était dans les derniers choix, mais à un moment donné il a été retiré pour retenir que ces 10 thèmes-là. Voilà.
Alors est-ce qu'on peut les évoquer ces thèmes-là pour rentrer dans le vif du sujet, et on reviendra après sur le groupe de conversation.
Alors les thèmes qu'on a retenus, que le groupe a retenus, hein, c'est les congés payés en 1936, l'Exode en 40, la Libération en 44, la Machine à laver en 1955, la Pilule en 1967, la Grève du cœur en 1967. C'est Madame Renoux qui avait proposé cette idée-là. Mai 68, bien sûr, en 68. La télévision, on a retenu la date de 1974. Je ne sais plus pourquoi, mais voilà. Le 11 septembre, en 2001. Et puis les attentats de Paris en 2015. Voilà les 10 thèmes qui ont été retenus par le groupe.
Alors, je vais me retourner vers Madame Pringuet et Madame Renoux pour savoir ce que vous vous racontez un petit peu dans ce groupe de conversation au-delà de ce projet 10-90. Quel genre de conversation vous avez, si c'est pas trop intime évidemment. Madame Pringuet, c'est ça ?
Oui, ça. On parle un peu de tout, de la vie actuelle, je cherche mes mots. De ce qui se passe en France. Par exemple, hier, on a parlé de Vincent Lambert, hein, qui a été remis sur... Et que ce matin, on a tout supprimé, encore une fois. Je trouve ça aberrant. Enfin, c'est mon point de vue, il y en a d'autres. Hein. Et on parle de choses très agréables. Par exemple, à un moment donné, c'était le foot, la Coupe du Monde. On parle de tout, comme ça. Toutes les choses qui nous passent par la tête, hein, qu'on entend dans la télévision, n'importe, ou autour de nous. Hein et c'est très agréable. Depuis 3 ans, je suis ici. J'ai choisi mes animations. J'en avais pas beaucoup, mais je vais aux deux de Monsieur Garcia. Je trouve ça, je sais pas, ça nous laisse. On n'est pas exclu quand on est personne âgée. On est exclu de beaucoup de choses. Tandis que là, dans ses animation qui fait, on vit comme les autres. J'ai trouvé ça très agréable.
Je me retourne vers Madame Renoux. Et vous, alors, ce groupe de conversation, il vous permet quoi ? Qu'est-ce que vous y racontez ?
Il me permet de revivre.
C'est-à-dire ?
J'avais des mauvaises idées, j'ai tenté à ma vie, et puis là, ça repart, hein. Grâce à monsieur et madame. Et je ne regrette pas. J'ai pleuré pour venir ici, mais je pleurerais si on me mettait à la porte. Pourtant, vous savez, je suis turbulente. On m'accepte comme ça. Mon mari m'a accepté des années comme ça. Mes enfants, pareil. Messieurs, dames, pareil.
Elle nous taquine, Madame Renoux, tout le temps. Et nous, on la taquine aussi tout le temps. Voilà. Il y a un jeu entre nous. Elle me dit que je l'embête tout le temps. Alors que c'est elle qui m'embête. Il y a un vrai jeu entre nous.
Ouais. J'ai plus envie de mourir.
Ah bah, c'est une bonne chose, ça.
Et oui.
Du coup, ce groupe de discussion, de conversation, il vous permet de vivre un moment ensemble, entre résidents, créer une vie de groupe au-delà de qui compose ce groupe. Et puis, comme vous disiez, Madame Pringuet, aussi d'aborder des sujets d'actualité ou des sujets qui vous préoccupent.
Dans le monde, quoi. on reste dans la vie du monde. Tandis qu'autrement, quand vous allez dans un petit coin ou dans n'importe, là, on se sent vieillir. Et on peut pas. Tant qu'on est là, on vit. Et on a besoin de vivre.
Ça vous permet, en effet, d'avoir un lien avec, avec le reste de la société, oui.
Ah oui, ah oui. Ah oui, on n'est pas coupé du monde quand on va à ces réunions-là. Comme une autre que j'aime beaucoup aussi, c'est celle de Laurent. Un jeu de mots, mais c'est très agréable aussi. Hein bon. Je ne dis pas ça pour vous, hein, Katia.
Mais je vous en prie.
Non, parce que je ne viens pas beaucoup en bas. Hein.
Mais c'est l'avantage d'avoir plein d'activités où vous pouvez choisir ce que vous avez envie de faire.
Oui.
Pour revenir un peu sur concrètement sur ce projet 1090, pourquoi c'était important pour vous de lancer ce projet, de créer ce projet, et puis avec quelle idée de suite derrière, parce que là on a affaire à un bel objet bien produit, donc un vrai disque avec des vrais enregistrements, des vraies photos pour le livret, enfin voilà, il y a un vrai travail soigné. Pourquoi c'est important d'aller jusqu'à une production comme ça soignée? Et puis, quelle est l'idée de la suite après coup?
Alors, peut-être juste avant de répondre à cette question-là, moi, ce que je voulais signaler, c'est quand même les différents partenaires qui ont œuvré dans ce travail-là, puisqu'on n'a pas fait ce travail tout seul et on a associé autour de nous des gens de qualité. Je pense à Fabien Tisserand de l'atelier musique assisté par ordinateur de la MJC à Évreux, et c'est deux personnes, deux stagiaires, je ne sais pas comment, oui, deux stagiaires qui sont dans son atelier, qui sont venus enregistrer ici sur place les résidents, et ça a été vraiment à chaque fois des belles rencontres. Et puis on s'est aperçu que pour les résidents, bah, c'était un vrai exercice, quoi, d'être enregistré, de lire, de se préparer avant la séance d'enregistrement, enfin voilà. Donc on a eu une bonne qualité de son de ce côté-là, un super travail. Et puis aussi, comme on avait un disque, on avait donc un livret. Ce livret, c'était l'occasion d'avoir aussi de l'image, enfin, pour avoir un support visuel. Et on a proposé donc une carte blanche à l'atelier de photo de Vincent Connétable, au niveau de la maison des arts Solange Baudoux. Et donc ils ont fait les photos du livret, voilà. Avec une mise en page de David Alazraki, qui est enseignant à la Maison des Arts, en infographie, et qui a fait toute la présentation visuelle et qui a fait un super boulot, comme on peut le voir là, quoi. Voilà. Ça, c'était important pour nous de le redire. Alors, l'objectif, quand on fait un projet comme ça, c'est d'avoir une transmission et de créer un lien avec des plus jeunes. Donc les précédents projets que j'ai pu faire, on a rencontré des écoles, on a rencontré des collèges. Un autre projet, peut-être, je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler, on est allé déposer un disque au mémorial de Caen, sur la vie quotidienne sous l'occupation allemande, qu'on a fait avec Katia et puis les résidents de l'époque en 2010. Et donc avec ce disque-là, l'objectif, c'est vraiment de rencontrer des collégiens, enfin là c'est ce qu'on espère. Les résidents ont écrit un courrier la semaine dernière aux principaux des collèges d'Évreux en leur remettant le disque, et on espère que des enseignants vont peut-être se saisir de ce disque en se disant, bah tiens, on pourrait peut-être rencontrer des gens âgés et puis avec les élèves de leur classe et croiser comme ça les points de vue des jeunes et des anciens. Ce groupe de conversation, vas-y, je t'en prie.
On le fait déjà, au livre que tu avais écrit sur Pascaline, et que voilà, on emmène déjà des résidents en école d'aide-soignante, justement pour parler de la personne âgée en EHPAD.
Voilà. Donc, enfin, ce livre-là qui a été écrit en 2013, c'est Étape, la retraite de Pascaline, où les gens avaient inventé la vie de Pascaline qui rentrait en maison de retraite. Voilà. Et plutôt que ça soit un infirmier, un psychologue, un médecin, je sais pas qui aille dans une classe d'aide-soignante pour parler de l'entrée en maison de retraite, là, on y va avec Madame Renou, avec Madame Pringuet, avec Madame Chander, avec Madame Chopin. Enfin, voilà, on y va à une délégation. Tout le groupe ne se déplace pas, mais on y va à peu près à 5-6 personnes. Et ce sont les résidents qui témoignent de qu'est-ce que ça fait que de rentrer en maison de retraite. Qu'est-ce qui a été dur? Qu'est-ce qui a fait du bien quand on est rentré en maison de retraite? Voilà. Donc cette intergénération, elle ne concerne pas que des primaires ou des collèges, mais voilà, on va aussi sur des intergénérations plus âgées, en fait. Hein, voilà. Pour revenir au disque, on espère voilà, qu'on va pouvoir tricoter le passé et le présent. Ça, c'est une expression de Charlotte Mémin, qui est la psychologue qui a fondé ces groupes dans les années, fin des années 80, début des années 90, qui était vraiment le fer de lance de la gériatrie, qui était vraiment à la pointe et c'était une pionnière en la matière. Et elle parlait de tricoter le passé et le présent. Et donc, c'est ce qu'on essaye de faire quand on croise des générations.
Je vais me retourner vers Madame Pringuet et Madame Renoux. Je vais vous demander comment ça s'est passé les moments d'enregistrement ici. Monsieur Garcia Suarez en a parlé un petit peu de voilà l'équipe de la MJC qui est venue s'installer ici chez vous pour enregistrer ce disque. Mais je voulais avoir votre regard à vous. Voilà comment vous avez vécu ces moments d'enregistrement. Comment ça s'est passé, Madame Pringuet peut-être.
Alors je dirai bientôt. J'avais une certaine fierté de pouvoir participer à cette chose. Et alors, quand j'ai vu, pour enregistrer la façon qui... J'ai imaginé que j'étais dans un studio de... Mais ce qui m'a plu également, c'est le photographe. Avec ses cinq filles qui nous photographiaient. Couchées, à genoux, en l'air. On a été photographiés vraiment comme si on était des artistes. Hein? Alors j'ai trouvé ça, j'étais fière. Je l'avoue, j'étais contente. Pour moi, ça a été un bon passage de l'enregistrement de ce DVD.
Voilà. Je me retourne vers Madame Renoux. Comment vous avez vécu, vous, l'enregistrement de ce disque et ce projet? Comment vous l'avez vécu, oui.
Bien, je dis la vérité. Katia Marchand. Elle m'a remis en place quelquefois, maintenant ça va. Monsieur aussi, je dis beaucoup de bêtises, mais... Non, je suis bien, je ne veux plus m'en aller. Voilà, je suis là, j'y reste. Voilà.
C'est important pour vous en parliez à l'instant, de vous sentir fier voilà, au travers du disque, voilà. Des photos. Pourquoi c'est important d'avoir ce sentiment de fierté, d'être content de soi, vous disiez d'avoir le sentiment d'être comme une artiste?
Ben oui, je sais pas, moi, j'imaginais, bon, on imagine des artistes qui sont photographiés, tout d'un coup ça nous arrive à nous. Hein, je sais pas, ça, c'est formidable quoi. J'aurais jamais cru qu'en venant maison de retraite, on se serait occupé de nous comme ça.
De se sentir valorisé.
Oui. Oui, oui. On n'est pas mis dans un coin comme des vieilles personnes quoi, qui ne veulent plus rien. Quoi. Si, pour moi, ça a été une grande aventure.
Et alors, depuis, est-ce que c'est facile pour vous d'assumer la vie d'artiste?
Oh, je n'assume rien là.
Est-ce que vous vous sentez comme des artistes aujourd'hui?
Ah non, pas du tout.
Non,
pas du tout.
Ça vous intéresse pas comme mode de vie d'être artiste?
Non. Surtout moi, j'aime bien une vie calme, bien réglée. Alors une vie d'artiste, non. C'est-à-dire que j'ai travaillé beaucoup, alors maintenant, repos. Mais du repos, comme ça, comme des réunions comme ça, pour moi, ça a été formidable.
Les congés payés. Avant 1936, il n'y avait pas de congés payés. C'est-à-dire que les personnes n'avaient pas de vacances. Elles travaillaient du lundi au samedi et n'avaient que le dimanche et les jours fériés pour se reposer. Avant 1930, il existait quelques patrons sociaux qui offrait une semaine de congé, mais cela restait exceptionnel. Avant l'attribution des congés, il y a eu de grandes grèves dans les usines partout en France. Le gouvernement Blum a permis des évolutions sur le plan économique et social, dont les deux semaines de congés payés. C'était un bouleversement, être payé à ne rien faire. Les vacances se développaient progressivement et assez lentement. Les personnes partaient surtout dans les familles éloignées qu'ils n'avaient pas l'occasion de rencontrer, ne serait-ce qu'à 50 km.
Ce sont les débuts des tandems et des trains de plaisir qui, en Normandie, allaient au bord de la mer. En 1937, j'avais 5 ans. Je me souviens de nos premières vacances avec mes parents, mon oncle, ma tante et leurs deux enfants. Nous étions 9 dans la même voiture. Mon oncle était au volant et à côté, mon père, qui avait un enfant entre les jambes, assis sur le bord du siège. À l'arrière, il y avait les deux mamans, avec les deux plus petites filles, sur les genoux, c'est-à-dire ma sœur Janine et moi-même. À l'arrière du siège avant, il y avait deux strapontins, où étaient assises ma grande sœur et ma cousine. Les vacances ont changé le mode de vie des Français. Elles ont permis d'avoir du repos et pour ceux qui le pouvaient, de partir découvrir une autre région. La mer était vraiment le symbole des congés payés. C'était une ouverture au monde. D'autres restaient à la maison et en profitaient pour jardiner ou du bricolage. Les congés payés ont permis aussi que les familles se retrouvent et passent du temps ensemble, ce qu'elles n'avaient pas l'occasion de faire auparavant. De nos jours, les congés payés semblent naturels, mais cela n'a pas toujours été le cas.
Vous, Madame Renoux, vous vous sentez un peu comme une artiste depuis ce projet ? Non, ça ne vous intéresse pas ?
Pas du tout, du tout.
Vous ne voulez pas être une vedette ?
Oh non, mais j'aime bien être... J'aime être une vedette.
Vous en êtes une de temps en temps, quand même.
Oh oui, je...
Vous êtes notre vedette.
Vous savez...
Pour l'histoire de la barbe.
Ah bah oui, il était plus beau sans barbe. C'est vrai, hein,
qui ça
vous l'avez dit, monsieur.
Ah, oui. D'accord, je comprends mieux.
Oh là, oui.
Il est arrivé avec sa barbe. On a ri toute la séance. Il se passait pas 5 minutes sans qu'elle
le. Le pire, c'est que j'ai un petit-fils, il est comme vous.
Il a de la barbe aussi ?
Oh là là, ah, oui.
C'est terrible, hein, ça.
Ça pique. Mais enfin, ça va. Non, je suis bien là. Je veux mourir là, pas tout de suite, hein. Mais je suis bien là, je mange bien, je dis des bêtises.
Est-ce que ça a l'air d'être important pour vous de pouvoir dire des bêtises ?
Ah ben, bon, c'est naturel. J'ai toujours été comme ça. J'avais un mari, il disait rien. Quand c'était trop, il partait devant. Non, une fois, j'ai voulu savoir combien les prostituées prenaient entre les voitures à Cannes. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis mise derrière une voiture. Entre. Eh bien, il y a un pépère qui a arrêté, puis il m'a demandé combien je prenais.
Et alors, vous lui avez dit quoi ?
Oh ben...
Vous êtes partie.
Oui. Et mon mari ne me connaissait plus. Ah oui, j'avais un mari posé. Ouh. Vous ne connaissez plus, là.
Pour revenir un peu sur le travail que vous avez effectué sur ce projet 1090, comment ça s'est fait pour vous, ce travail de mémoire ? Voilà, vous plongez dans des souvenirs historiques et en même temps peut-être aussi un peu des souvenirs personnels. Comment ça s'est fait ? Et est-ce que c'était facile de le faire pour vous ? Madame Pringuet, Madame Renoux.
Parce que j'avais choisi justement les congés payés. Et ça, c'était vraiment personnel, enfin, que la famille. Hein, puisque j'expliquais l'histoire de la voiture, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. On était à 9 dans une voiture, mais on avait chacun sa place. Il y avait le chauffeur, il y avait papa à côté, c'était deux frères. Et mon père était... dans le temps, les voitures étaient bien larges, et il y avait un petit garçon entre les genoux. C'était en 37, ça, hein, j'avais 5 ans, ce moment-là. Derrière, il y avait les deux mamans, avec chacune les deux petites filles.
Mais comme la banquette était large, on était souvent, il y en a une des deux petites filles qui était entre les deux dames. Autrement, et dans ces voitures-là, il y avait des strapontins dans l'arrière des sièges avant. Et c'est des choses qui sont vraiment personnelles. Que, hein, et là, il y avait les deux grandes filles, une grande fille, 9 ans, quoi. Et je ne sais pas, c'est une chose vraiment personnelle que j'ai pu raconter. Par contre, je dis 37, mais c'est peut-être 38. Je dis 37 parce que bon, les congés payés, c'était 36 en juin. Donc, on n'est sûrement pas parti en vacances en juillet ou en août. Donc, je mets ça à 37 parce que c'était l'anniversaire de 10 ans de mariage de mes parents. Alors, j'ai dit 37, c'est bien. Après, 38, c'est trop près de la guerre et puis...
Vous étiez parti où? Vous étiez parti à quel endroit?
À Coxyde, en Belgique.
Vous étiez parti en Belgique?
Oui, parce c'est à 75 km de chez nous. Hein,
vous êtes du Nord?
On est du Nord.
Voilà.
Et c'est une grande plage de sable, quoi, très, très
et
bien.
Et vous étiez logé comment? Vous étiez logé comment à ce moment-là?
Alors, à ce moment-là, beaucoup de magasins louaient leur premier étage.
Pour les vacances?
Pour les vacances.
Ah, d'accord. Okay.
Et je crois fort qu'on était au-dessus d'un estaminet. Ça, je ne vais pas la fermer.
D'accord.
Ah, ouais. Bien placé.
Mais près de la plage, bien placé. Ah, pour
vraiment
ça.
Bien placé. Alors. Je me retourne vers Frédéric. Est-ce que c'est quelque chose que vous cherchez aussi à travailler au travers de ce groupe de conversation, le travail sur la mémoire, et comment on l'effectue ce travail?
Alors effectivement, c'est un travail sur la mémoire. Alors à la fois, on voit bien un travail sur la mémoire individuelle, puisque là, on est sur des souvenirs très précis de Mme Pringuet dans sa jeunesse. Et puis, on est aussi sur une mémoire collective, puisque quand le groupe... Alors comment ça s'est passé? C'est que les gens, sur le brainstorming, ont fait des propositions, et c'est le groupe qui a retenu la proposition de telle ou telle personne, et ensuite on était sur une écriture collective. Et donc l'écriture collective montre bien que même si à un moment donné, les détails que Mme Pringuet amène sur cet élément-là, il y a aussi plein d'autres souvenirs individuels qui sont remis dans ce collectif-là. Donc on est à chaque fois dans le groupe de conversation, à la recherche d'une mémoire individuelle, ce qui permet aussi à tout ce groupe de bien se connaître. C'est parce qu'on est dans un partage à un moment donné. Les gens parlent de soi, parlent de leur vie très précise, très, très personnelle, dans une histoire commune. Parce que là, on parle des congés payés, on a parlé de la reconstruction après-guerre, on a parlé de la manière dont on se rencontrait quand on était jeune homme et jeune femme en 1940. Voilà. Et c'est des modes de vie qui évoluent ça dans la société. Et donc, on est vraiment dans cette recherche-là, dans cette recherche d'une mémoire individuelle et collective.
Est-ce que c'est facile de se livrer voilà, des fois, j'imagine que dans ces groupes de conversation, il y a des discussions un peu intimes qui reviennent. Là, je ne sais pas qui veut s'exprimer sur le sujet, mais voilà, c'est pas forcément facile de se livrer, y compris en tête-à-tête. Mais alors, en groupe, ça, j'imagine que c'est encore peut-être un peu plus compliqué. Je ne sais pas, il n'y a pas de point d'interrogation au bout de cette phrase, mais si quelqu'un veut intervenir sur ce sujet.
C'est sûr que quand... Monsieur Garcia nous propose un sujet, on ne parle pas tout de suite, on réfléchit. Mais sitôt qu'il y a quelqu'un qui a dit quelque chose, du coup, ça nous fait penser à autre chose. Et le départ est toujours, enfin, d'après moi, calme. Et tout d'un coup, ça, tout sort des 7-8 personnes qu'elle a ou la dizaine de personnes.
Il faut qu'il y en ait un ou une première qui amorce un peu la pompe et puis après, on se libère, c'est comme ça, ouais.
On pense pas à tout de suite, c'est hein, quand tu proposes quelque chose, quoi, mais ça vient.
Et comme toute conversation, c'est qu'on défend part sur un thème de départ qu'on annonce. Alors soit c'est moi qui l'annonce, soit c'est le résident. J'aime bien moi qu'on réfléchisse en amont au thème qu'on va aborder. Et donc on part sur un thème, je sais pas moi, l'arrivée de l'électricité par exemple. Et puis à un moment donné, on est sur complètement autre chose parce que par association, par échange, on est parti sur complètement autre chose. Et voilà, ça c'est vraiment très intéressant aussi, c'est d'aller au fil de la conversation sur complètement d'autres thèmes de discussion. Quoi.
Et puis moi j'ajouterais que je pense que le groupe finit par quand même bien se connaître, donc ils arrivent à prendre confiance en eux. Frédéric, ça fait longtemps qu'il l'anime, donc du coup les résidents ont aussi confiance en Frédéric. Et finalement, la conversation coule de source et je pense que les gens sont vraiment dans la conversation sans avoir l'impression de se livrer, en fait. Et j'ai l'impression quand même que finalement, ça marche vraiment comme ça, quoi.
Concrètement, voilà, quelqu'un qui nous écoute ce matin, il pourrait se le procurer comment, ce disque 1090, parce que là, je pense qu'on a suscité un certain intérêt. Voilà, j'aimerais pouvoir écouter ce disque, je fais comment ?
Alors, dans tous les CDI des collèges d'Evreux, alors, donc, on a fait 250 exemplaires. Et donc, on le donne d'abord donc, aux familles des résidents, on le donne au collège. Pardon ?
Je disais, on peut peut-être dire qui nous a aidés à le financer.
Ah oui, effectivement. Bah vas-y, je t'en prie, c'est une bonne idée.
Alors, qui vous a aidé à le financer, ce projet ?
Mais parce que nous avons une association qui est toujours vraiment derrière nous pour tout ce genre de projet. Donc, c'est l'association Expression sans âge, voilà, qui donne plutôt au niveau des services de la ville d'Evreux et surtout sur des projets culturels. Voilà. Et donc, c'est vrai que grâce à eux, le CD a pu sortir.
Et donc ce CD, ouais.
Donc, ouais, voilà, on n'en a que 250 exemplaires.
Ils ne sont pas destinés à la vente.
Destinés à la vente. On est plutôt pour le faire, le donner à des, voilà, soit des collèges, des écoles, des centres de loisirs. Et après, par contre, effectivement, vu que c'est du fichier MP3, moi, je suis à la disposition des personnes qui le souhaitent et je peux tout à fait leur envoyer les fichiers pour qu'ils aient les sons, quoi. C'est pas du tout un problème.
Alors, du coup, comment on fait pour vous contacter ?
Il faut téléphoner à la résidence Azemia au 02 32 33 62 95. Et puis, donc, en demandant à parler à Frédéric, le psychologue, moi, je prends leur mail et puis je leur envoie les fichiers ensuite sans problème.
Est-ce que, notamment, Madame Renoux ou Madame Pringuet, on arrive à la fin de cet échange, vous aimeriez rajouter quelque chose, que ce soit sur le groupe de conversation, sur ce projet de disque 1090 ou sur autre chose, voilà, un peu le mot de la fin, évidemment, on vous le laisse à vous. Madame Renoux, Madame Pringuet, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose qu'on n'aurait pas encore dit, qui vous semble essentiel et important ? Vous avez le droit de réfléchir.
Oui. On parle du disque. J'ai jamais compris pourquoi on ne peut pas avoir davantage de disques en les payant.
Bah parce qu'il faudrait en rééditer, oui. Après, il faudrait en éditer d'autres, en fait.
Il faudrait en refaire d'autres.
Voilà, c'est ça. Oui. Parce que là, on en a fait 250, il nous en reste peut-être une soixantaine maintenant. Donc, on en a donné beaucoup. Voilà, donc après, c'est quand même compliqué. Il faut retrouver. Enfin, après, faut.
Oui, après, ce sera trop tard. C'est au moment où ça sort. Quoi. Je suis sûr, quand vous avez fait la réunion de. Pour présenter, j'y étais pas, hein, j'étais à l'hôpital à ce moment-là.
Ouais, ouais.
Hein, les gens qui ont écouté ce disque avec vous, je suis certaine que des personnes en auraient voulu.
Il y en a qui sont partis avec, il y avait plein de. Les invités en avaient ce jour-là. Oui. Parce qu'on a présenté le disque ici, dans le hall ici de la résidence, c'était le 9 mars, en présence de Monsieur Lefranc, de Mme Beauvillard, et puis de beaucoup d'invités. Et donc voilà, c'était la présentation officielle du disque. Et à ce moment-là, ce jour-là, Mme Pringuet, on a pu le donner à un certain nombre de personnes. Voilà, il y a des personnes ce jour-là qui sont reparties avec.
Oui.
C'est aussi pour ça qu'on en a plus que 60.
Du coup, pour en revenir à ce qu'on disait un peu en rigolant tout à l'heure sur vos vies d'artiste maintenant, grâce à. Non, mais plus sérieusement, il y a quand même des gens extérieurs au projet, à Azemia, qui ont écouté ce projet-là et qui l'écoutent au travers aussi du travail qu'on fait là avec la radio. Et qui donnent la possibilité de que vos voix et vos histoires soient entendues ailleurs que dans ces murs-là. J'imagine que c'est important pour vous. Aussi.
Oui, moi je trouve, faire tant de. Enfin, avoir fait ce disque, il a fallu beaucoup de. Je vais chercher mes mots encore une fois. Hein? Et après que ça reste comme ça, sans que personne puisse l'écouter, quoi. C'est.
Mais du coup, il y a des gens qui l'écoutent. Voilà.
Grâce à la radio, on va continuer à l'écouter.
Et puis, moi, je voulais rajouter que nous, chaque membre du personnel de la maison de retraite, on a eu le disque aussi en cadeau. Et donc, c'est vrai que ça permet aussi, quand on est extérieur au groupe de conversation, de découvrir aussi le travail qui est fait, de découvrir aussi nos résidents sur une autre facette. Et puis, comme on l'a amené dans nos familles, bah, ça permet aussi de le montrer, enfin de le faire écouter à nos familles aussi en disant voilà ce que l'on fait en maison de retraite. Donc il ne reste pas comme ça, il est vraiment vers plein d'autres gens.
Voilà, donc ce projet 1090, évidemment, une autre vie hors les murs d'ici à Zemia. Merci en tout cas à vous, Frédéric Garcia-Suarez. Je rappelle que vous êtes psychologue. Katia Dessol, vous êtes responsable animation ici à Zemia. Et puis à vous, Madame Pringuet et Madame Renoux, d'avoir pris le temps d'échanger avec nous ce matin. Merci beaucoup.
Merci à vous. Ça nous a fait plaisir d'être... intéressé à ce petit groupe.
Quand vous reviendrez, ce sera peut-être plus pareil.
Ah bon, pourquoi? Moi, je suis curieux. Hein, si vous me relancez, je pose des questions.
Monsieur, la madame.
Bon, on reviendra voir pour voir comment c'est.
Oui, je vous dirai.
D'accord, ça marche. Je demanderai madame Renoux. Hein.
C'est ça, je vous dirai tout ce qu'on suit.
Ça a l'air terrible.
Ah oui.
Merci à vous, madame Renoux.
La libération. Avec l'arrivée des alliés, les Américains, les Canadiens, les Anglais, etc., les Allemands s'enfuyaient. Ils battaient en retraite. C'était très désordonné. Mais avant de partir, ils laissaient des charges explosives pour faire sauter les ponts, afin de ralentir la progression des alliés. Les Allemands qui restaient étaient de pauvres réservistes, des hommes âgés et des jeunes. À Évreux, on a tout filé chez Madame Chaplin, mercière près des Halles, pour acheter du ruban tricolore. Dès qu'on a entendu les tanks américains arriver, on a accouru à une quinzaine de filles avec nos rubans dans les cheveux. Les Américains ont applaudi, c'était la joie. Les Américains entrant dans la ville, c'était incroyable. On applaudissait à tout rompre. Certaines d'entre nous riaient, couraient, montaient sur les tanks et dans les jeeps. Nous étions libérés. C'était un soulagement total. La vie allait reprendre son cours normal. On a fêté l'arrivée des Américains avec des grands bals. On allait danser avec les libérateurs. Il y a eu des idylles. Certaines Françaises se sont mariées avec des GI. La vie a été modifiée. En retrouvant notre liberté, nous n'avions plus cette crainte des Allemands, mais la vie normale, elle n'est pas revenue du jour au lendemain. Les cartes de rationnement pour l'alimentation et pour le textile sont restées plusieurs années après la fin de la guerre. D'autre part, les Américains ont amené avec eux leur mode de vie. Il y a eu une accélération de la modernisation, aussi bien dans l'agriculture que dans l'industrie, mais aussi dans nos maisons, avec les équipements domestiques, le petit appareillage électrique, les mixeurs, les fers à repasser, les machines à laver, etc. Les Américains ont évidemment amené leur musique, le jazz notamment. On n'avait jamais entendu jouer de la trompette ou du saxophone de cette façon. Puis le rock'n'roll est venu un peu plus tard dans nos bals. Avant-guerre, nos vêtements étaient faits de matières naturelles et après la guerre, les habits synthétiques se développent assez rapidement. Les baninons notamment, amenés par les Américains, étaient une nouveauté très appréciable, plus solide et moins chère que la soie. Et enfin, on ne peut pas oublier l'arrivée du whisky et le Coca-Cola, qui étaient des boissons inconnues des Français jusqu'alors.
Principe actif.